transition pour la dernière partie de cette matinée, qui sont les vulnérabilités linguistiques. Donc, comment est-ce qu'on fait par rapport à ces vulnérabilités linguistiques?
En tout cas, comment on fait à Uraka? Je vous avais dit tout à l'heure qu'on était plus nombreux avant. On avait 3 médiateurs en tout qui maîtrisaient, je dirais, quasiment tous les dialectes de l'Afrique de l'Ouest. Quasiment. Et depuis, l'équipe s'est fortement réduite. On n'a plus qu'une médiatrice qui parle 5 dialectes. Ce qui est déjà pas mal, mais elle ne parle pas soniké. Et là, on a une difficulté, nous, parce qu'on reçoit beaucoup de personnes du Mali qui parlent soniké. On n'a plus cette possibilité d'avoir les DH par la langue. Dans la consultation, c'est essentiel quand on a d'offrir la possibilité. Ça n'est pas d'enfermer le patient dans sa langue, mais qu'il ait la possibilité d'exprimer dans sa langue maternelle ce qu'il ressent. D'ailleurs, quand on a... parfois, je fais des consultations juste avec ma collègue médiatrice, et elle est là s'il y a besoin de traduire. Et souvent, le patient va s'exprimer en français et va dire ce qu'il a déjà dit des dizaines de fois aux différents intervenants qu'il a rencontrés. Et puis, à un moment donné, il s'arrête et hop, il bascule dans la langue et il s'adresse à la médiatrice. Et là, on arrive enfin à ce qui lui est intime, à son histoire à lui, à ce qui le préoccupe vraiment. Et quand on a cette possibilité d'avoir les TH par la langue, c'est un levier extraordinaire parce que le patient dit ce qui va, ce qui ne va pas. Il se sent en confiance et il fait part tout de suite de ses difficultés. Quand on intervient aussi dans les hôpitaux, parfois ça peut être aussi pour cet aspect-là. Comment on dit dans la langue. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de la drépanocytose. Et d'ailleurs, il y a un article très intéressant d'Agnès Lenné qui a écrit un article sur nommer la drépanocytose dans l'espace francophone. Et elle revient un petit peu sur l'historique de comment on nomme drépanocytose. Dans certaines cultures, dans certaines langues, on n'appelle pas du tout comme ça. On parle du froid qui broie les os. On parle de la douleur. Et le terme en lui-même, il n'est pas porteur de sens, surtout quand dans le cadre médical, on pose le nom drépanocytose, ça veut rien.
Même pour les Français, les francophones, je pense que le drépanocytose...
Oui, SS, oui. Ou hémacie, enfin hémacie, et encore, on ne l'écrit pas comme avec le H, mais juste avec le E. En tout cas, il y a ce frein réel. On n'a pas les moyens aussi de faire appel à... Vous savez, il y a des structures de traduction pour l'interprétariat. C'est économiquement, ce n'est pas possible.
Il faut savoir que ça existe quand même.
Oui,
dans certains hôpitaux.
Voilà. Interservice migrant, etc.
Alors, si vous avez la possibilité et les moyens, ça ne peut être qu'une bonne chose. Surtout que dans Interservices Migrants, vous avez des traducteurs-interprètes, mais il y a aussi des médiateurs, c'est-à-dire qui ont la formation de la médiation, donc qui ont en plus cette compétence. Et quand vous avez l'occasion de travailler avec ces professionnels, vraiment, c'est un plus. Après, nous, il est vrai qu'on a cette difficulté. Dans les ateliers, parfois, on peut avoir une participante qui peut traduire à une autre. Ça, on peut avoir cette possibilité-là. Mais dans notre pratique, en tout cas, on évite toujours la traduction par le biais familial. Et d'ailleurs, parfois, on intervient à l'hôpital parce qu'il y a eu des problèmes suite à ça. Lorsque l'équipe médicale ne sait pas exactement quelle est la place du frère, par exemple. Faire traduire par le petit frère, on destitue le patient de sa place. En plus de la maladie, on lui retire son droit d'aîné. Donc c'est compliqué aussi, ça... Il se retrouve lui aussi en difficulté vis-à-vis de son frère qui détient un pouvoir vis-à-vis de lui, par exemple. Donc, dans la mesure du possible, on évite. Et aussi, par rapport aux enfants, parce qu'il y a un risque transculturel, là. Quand on a un enfant qui traduit, on le fait sauter d'une génération. Il se retrouve à avoir un pouvoir sur ses parents. Il accède à des informations qu'il ne devrait pas avoir. Et vraiment, dans la mesure du possible, on est vraiment sur... La traduction, sachant que chaque fois que j'interviens, je dis bien qu'on a besoin d'un médiateur soniké en espérant que quelqu'un vienne, parce qu'on n'en trouve pas.
Donc on a... Moi j'en ai un.
Il faut aller dans les foyers.
J'en ai un que j'ai formé en plus.
C'est
à Vitry.
Ça fait plus de trois ans qu'on cherche un médiateur soniqué, parce que nos anciens médiateurs, ils sont.
Je vous donnerai l'adresse à Waba, Madame Ba, la médiatrice. Voilà.
Bah, vous voyez, il faut persévérer. Ça fait trois ans que je dis ça partout où je vais.
Et justement, nous, dans les foyers, en fait, on n'a pas les mêmes actions, parce que vous, c'est plus un acte médical. Mais nous, lors des séances d'information collective sur certaines thématiques de santé, quand il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'il y a cette barrière, mais elles veulent bien insister, on essaie toujours de trouver une personne dans le foyer qui parle soniké, qui parle bombara, pour essayer de traduire à son voisin. Voilà. Et puis l'intervention se fait en français pour des personnes, si l'arabe, ok, mais pour le soninké ou bombara, on essaie de travailler avec les résidents qui sont là-bas, qui participent. Alors,
moi là-dessus, je voudrais quand même insister sur la nécessaire formation préalable de ces interprètes. Parce que, il faut qu'ils sachent un petit peu de quoi on va parler. Donc nous, on les a formés sur le diabète, etc., avant. Et puis on leur donne en amont le contenu de la session, de façon à ce qu'ils se familiarisent avec le contenu. Deux, qu'ils soient bien au clair sur l'éthique en santé. Et ça, ça demande à travailler en amont, confidentialité et la non-contraction de dette. Parce qu'on a vu beaucoup d'interprètes comme ça qui accompagnaient des gens à avoir des aides sociales et qui après revendiquent un pourcentage de cette aide sociale. Oui, oui. Et ça, il faut être très vigilant. Alors, tout le monde ne le fait pas, hein, c'est pas du tout ça, mais ça demande à être bien discuté en amont et puis en aval avec les participants présents. C'est-à-dire que tout le monde soit au même niveau de discours et de connaissances. Parce qu'on ne maîtrise pas tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Et ça, je pense que cette formation préalable, elle est absolument indispensable. Je vous renvoie au numéro de 442, là, c'est Laurence Cotobi, je crois, qui a écrit l'article sur l'interprétariat Santé en Action. Donc.
Oui, donc, voilà, enfin, c'est vrai que la barrière linguistique est un frein pour l'accès aux soins. On a par exemple aussi lors des permanences, parce que comme je disais, c'est différent de ce que fait Fatia, parce que c'est plus médical, alors que nous, c'est question de paperasse, par exemple, pour l'accès aux droits de soins, quand on reçoit les latinos. Moi, j'ai deux personnes avec qui j'ai créé un lien, qui sont maintenant référentes, je les appelle, elles viennent avec les personnes pour la traduction, surtout pour les Philippins, pour les Vénézuéliens. Et bon, c'est juste question de paperasse, j'ai besoin de ça. Donc elle leur dit, tu donnes la photo, tu donnes le passeport, tu as fait la photocopie, et on arrive à instruire en fait le dossier. Et dans les foyers, c'est un petit peu plus compliqué quand il y a justement, il vient de dire le docteur Tessier qu'il faut former, c'est quand on va parler, on va faire de la prévention, on va parler d'une thématique santé, c'est vrai, il faut qu'ils aient l'information vraiment correcte, voilà. Et on ne peut pas s'amuser à traduire comme ça par intermédiaire d'une autre personne. Et ce que je trouve aussi, enfin malheureusement, il y avait je ne les vois plus d'ailleurs, les traductions, des notices pour tout ce qui est cancer, les plaquettes cancer, les notices d'utilisation des kits. Le dernier kit, il est sorti en une seule langue, qui est le français. Donc nous, on essaie d'expliquer aux gens en arabe, mais après, pour les autres, c'est...
Enfin, de toute façon, le colorectal... Il y a assez peu de gens qui le pratiquent.
Moi, je dirais qu'avec le nouveau kit, ça marche beaucoup plus. Parce qu'on a des retours maintenant. On fait avec Adoc 94 et on essaie. On a un tableau et on sait les personnes qui ont fait le test. Et donc, sur les foyers, non, ça marche très bien parce que c'est plus facile. Ce n'est plus sur trois volets, enfin, trois prélèvements. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand même qu'on arrive à inciter les gens à faire ce dépistage, et ils le font. Parce que il y a quand même des cas que, voilà, dans les foyers, oui, a choisi le roi qui était jeune, et voilà, il a fait le test, et c'est vrai qu'il a eu cette maladie, ce qui fait que toutes les personnes autour ont voulu faire le dépistage.
D'accord. Ça aussi, c'est un réel. Oui. De la même manière que dans les patients diabétiques, il y en avait un qui était amputé, et ça a été assez convaincant pour les autres d'écouter ce qu'on a fait.
C'est toujours comme ça. À Champigny, pareil, une personne de 65 ans d'origine maghrébine qui s'est trouvée en un... elle était positive au VIH, ben, les autres ils disent ben oui mais moi aussi je vais faire le dépistage. C'est bon, c'est ça déjà, ça aussi, si ça permet à des personnes d'aller jusqu'au bout quoi, de se faire dépister, pourquoi pas.
Sur les questions linguistiques, est-ce que des commentaires, questions, expériences peut-être à faire partager?
Moi, je trouve que même sans utiliser un interprète, parce que j'avais arrivé, mais ça m'est arrivé notamment en Côte d'Ivoire, faire redire en français différent une formulation de quelque chose qu'on n'arrivait pas à dire en français, je ne sais pas, c'est simple. Ça, parce qu'il m'est arrivé quelquefois de demander à quelqu'un de faire un interprète, et finalement, je m'apercevais quasiment qu'il parlait français, mais avec des mots beaucoup plus imagés, dans lesquels il rentrait beaucoup plus dans l'imaginaire du patient, enfin, ça collait beaucoup mieux que mes mots. Dans lesquels je m'en mêlais. Donc je trouve que quelquefois l'interprétariat, c'est aussi une reformulation de la chose en français, une façon qui est beaucoup mieux entendue.
C'est clair que si vous faites la fête le 1er janvier et que vous allez voir le toubib à côté que vous dites j'ai une crise de foie, il va vous donner le citrate de bétaïne. Mais si vous êtes à Berlin, Londres ou Madrid et que dans la langue locale vous dites que vous avez une crise de foie, le praticien va hurler de rire. Il n'y a que les foies français qui font une crise. Live a crisis, il va hurler de rire. Pourquoi je fais une crise? Pas possible. Donc, il y a effectivement la question du sens des mots. Oui.
Nous, à la santé, on a rencontré quelques cas, en fait. Les patients, en fait, dès qu'ils sortent du cadre médical, ils viennent nous voir, en fait, pour leur expliquer, en fait, leur ordonnance. Parce que quand ils sont avec le médecin, bon, lui, il explique à sa façon, en fait, etc. Et certains patients disent oui, on a compris, mais en fait, c'est pas le cas du coup de voir une médiatrice. Est-ce que c'est possible de me recevoir pour m'expliquer mon ordonnance par rapport aux médicaments, comment les prendre, ou même après la pharmacie, ils veulent me voir aussi pour leur expliquer les pictogrammes, parce que le fait que juste que la pharmacienne ou le pharmacien a écrit, lui ne comprend pas en fait. Si c'est plus visuel, c'est plus simple pour eux. Du coup, c'est juste expliqué avec des mots simples en fait. Et du coup, ça passe.
Mais ça, c'est valable même pour les patients non exotiques. Hein. Les pharmaciens le disent, les patients ils connaissent pas leur traitement parce qu'ils n'osent pas interpeller leur médecin. Alors, quand se surajoute la question linguistique, c'est encore pire. Encore pire. Parce qu'on n'a pas le temps. Hein, on parlait du temps tout à l'heure. Commentaire.
Alors, moi, au niveau de la formation d'aide-soignante, j'ai beaucoup de stagiaires qui sont issus de l'immigration et qui parlent différentes langues. Et étonnamment, je me rends compte qu'elles ne s'autorisent pas à l'utiliser en stage. Elles font un amalgame avec la notion de laïcité ou elles refusent d'être stigmatisées aussi par l'équipe. Et c'est compliqué, ça. C'est vraiment très compliqué. Ça les met en souffrance, dans un questionnement très profond.
On va voir cet après-midi la souffrance des équipes justement dans l'interculturalité. Là, je vais vous en parler un peu avec les puéricultrices. On va le travailler justement. C'est vrai que toutes ces questions mettent les équipes en souffrance. Ça, c'est énorme.
Tout à fait. Des fois, on se retrouve.
Ah. Oui, il y avait deux questions.
Sur la place
rituelle
aussi, parfois, c'est pas que une dimension linguistique, mais on a des familles qui demandent à se faire tiers, soit là. Et c'est compliqué parce que dans le système français, il y a une confidentialité aux patients ou aux parents si c'est un mineur. Et voilà, c'est parfois difficile, parfois c'est très aidant d'avoir ce tiers, mais parfois on s'aperçoit que on a tendance à dire moins non plus, mais parfois c'est utile. Enfin, voilà.
c'est vraiment la demande, est-ce que c'est le groupe qui demande à ce que ce tiers soit là, est-ce que c'est la personne elle-même, enfin c'est pas tout simple, comment est-ce que vous les intégrez dans les consultations par exemple?
Ben nous, on laisse le patient libre, il vient avec qui il veut.
Oui, il peut venir à l'entretien.
Bien, il vient avec qui il veut. Oui, oui, bien sûr. Il vient avec qui il veut, vraiment.
Ah oui, oui. Il y a besoin d'une personne de confiance.
Oui, mais par exemple, je suis bien dire qu'en pédiatrie, on a toujours les deux parents qui sont là avec l'enfant, et ton enfant arrive, voilà, il est arrivé par la famille, et là, il ne peut pas sortir, et la famille, il ne peut pas sortir. C'est pas rare,
Oui, mais je comprends la question, parce que ça peut être forcé aussi, hein. Ça peut être une intrusion forcée.
Après, ça dépend aussi de la configuration familiale. Par exemple, là, ce que vous me dites, ça me fait penser aux Comores. Les Comores, par exemple. Celui qui a autorité sur l'enfant, c'est l'oncle maternel, c'est pas le père. Et donc, ici, moi, je vois des équipes qui sont en difficulté parce qu'elles disent que le père est absent, il n'investit pas sa place de père et c'est l'oncle qui vient. Pourtant, dans la culture, le père est à sa place. Mais encore faut-il avoir ces informations-là. Parce qu'on est dans un système matrilinéaire et l'enfant appartient à la famille de la mère. Donc le père, ici, il peut tout à fait transgresser. Si vous ne connaissez pas, il peut dire « je suis détenteur de l'autorité parentale, donc je veux la solution A, par exemple ». Mais si l'oncle maternel lui dit que c'est la solution B, en principe, au niveau culturel, c'est lui qui a le plus de pouvoir. Mais c'est pas toujours simple à repérer. Parfois, il y a des... Ou alors, on a quelqu'un qui est le frère, mais en fait, c'est pas le frère. Mais on le présente comme le frère. Et c'est pas toujours évident. Nous, on part du principe que le patient a un pouvoir. Il vient avec qui il veut. Et parfois, il vient même avec un ami qui est le seul à connaître sa pathologie. Très bien. On le laisse libre.
Il y avait une autre question.
Oui, c'était monsieur. Vous avez...
Oui, c'était pour une question, c'est une réflexion sur plutôt en parlant des soignants. Et c'est intéressant de travailler sur le recours des soignants ou le non-recours des soignants à l'interprétariat. Alors, parce que moi, je travaille en dialyse et il y a beaucoup de patients allophones qui ne parlent pas français. Mais il y a ce côté aussi, si tu ne parles pas français, c'est ton problème. Quoi, tu vois, t'es pas légitime à avoir accès aux mêmes soins que les autres parce que tu ne parles pas français. Mais c'est un discours qu'on entend tous les jours. Ah ben voilà, parle pas français, tant pis. Quoi. Il vient en France, il n'a qu'à prendre le français. Exactement. Et c'est un truc qu'on entend et qui finalement. Voilà, c'est pas légitime quoi, d'avoir recours à l'interprétariat. L'interprétariat, c'est un luxe. Ce discours-là qu'il faut déconstruire aussi chez les soignants. Parce que c'est quelque chose qu'on entend mais, tous les jours. Et des patients, moi, quand ils disent qu'on pique, qu'ils ont mal, ben, du coup, on ne va pas leur demander s'ils ont mal. Parce que bon, ils ne parlent pas français, alors on va pas leur dire s'ils ont mal, c'est pas grave, quoi. Ils ne vont pas dire aïe en français, donc c'est pas grave. Non, mais il y a ce côté-là aussi, quoi, de travailler avec les soignants,
c'est le fait que l'on entend aïe. Aïe
en anglais. Et du coup, ça paraît pas légitime.
Oui, non, mais ça, on va le travailler tout à l'heure sur la question des stéréotypes, justement. On va aller affronter ça. J'aime bien affronter, parce que c'est pas facile.
Dans un hôpital où il y a un budget d'interprétation, après, il y a un paquet de comptes rendus de la gastro, suite à la sérologie, où c'est malheureusement le patient ne parle pas français, quoi, quelque chose comme ça. C'est pas son problème à lui, c'est pas le point du médecin. Et ça s'arrête là, alors qu'il y a un budget, en plus, pour l'interprétation.
Alors, il y a un budget, mais il n'est pas extensible. Le problème, c'est que... C'est carrément pas utilisé.
Ils n'ont pas le temps.
Oui, ils n'ont pas le temps, oui.
Ça prend du temps de faire avec ISM, quand même, déjà. On n'est pas... Enfin, si tu penses que ton gastro n'est pas du tout dans le même état d'esprit que toi...
Il n'est pas dans le soin. Ah oui, ça pose problème. Ça pose un vrai problème.
Quand on voit la place de l'interrogation dans
une consultation médicale, on se dit, bah, oui. Clairement, parce qu'il y a des attitudes, il y a des soignants qui sont clairement aptes ou volontaires par rapport à l'immigration, et puis il y a les autres. On voit la différence très vite.
Oui, mais serment d'Hippocrate. C'est comme ça que vous dites.
Oui, mais là vous attaquez les présents. Hein.
Oui. C'est pour qu'elle rappelle. Oui, mais c'est
les mêmes médecins qui ne vont pas chercher le compte rendu ou le bilan biologique dans leur ordinateur. Ils vont dire j'ai pas le bilan. Enfin, ils sont régulièrement au début. C'est les mêmes médecins qui apportent ça. Je n'ai pas le bilan. Ils sont au début, soit dans l'ordinateur.
Non mais ça, il n'y a pas qu'avec la population migrante. Hein. Un exemple la semaine dernière, quelqu'un qui va se faire opérer, qui va voir le neurochirurgien parce qu'il a une énorme tumeur, et le neurochir qui lui dit « Ah ben moi je ne sais pas courber le titane, donc vous aurez le crâne plat. » Véridique. Donc du coup elle est partie à l'autre bout de la France pour se faire opérer. En province, c'est quand même insensé. C'est insensé. C'est insensé.
Je pense que déjà, au niveau médical et paramédical, il y a un gros souci par rapport à la précarité, que ce soit une migration, oui.
Voilà. En fait. C'est exactement ça.
Oui, la précarité gêne et ça dérange les prises en charge standards.
Rentables. Rentable.
Des fois, c'est des arguments qui posent question. Nous, on a une chef de service en PMI sur la Seine-Saint-Denis qui, à un moment donné, voulait arrêter l'interprétariat sous prétexte que des femmes devaient s'autonomiser et donc aller au cours de français. Et que, mais bon, c'était. Heureusement, ça va aller, si je veux dire. Bon. Non, mais bon.
Mais les deux ne sont pas compatibles.
Oui, les deux ne sont pas compatibles. Ouais, tout d'abord, un interprète déjà, absolument. Pour savoir où on va demander, et puis savoir ensuite.
Ah, oui. Bien sûr.
Mais bon, c'est sûr. Des
fois, c'est sous couvert de bons sentiments. Ah, on le verra, ça aussi, cet après-midi, les bons sentiments, où est-ce qu'ils peuvent nous mener. Est-ce que vous avez un mot de conclusion ?
C'est un combat autant pour les migrants, les critères, que pour les soignants. En fait.
Complètement. Complètement.
Ou, oui.
Pour les soignants qui sont vraiment dans le soin. Et pas les soignants qui sont dans la technique. Ouais.
Moi, je dirais juste une chose, c'est de faire avec le patient à son rythme. Dans le sens où il a une expertise de sa maladie et de pouvoir faire à son rythme. Je sais que ça peut être utopiste, hein, c'est un vœu pieux, mais...
C'est une tendance.
Oui.
C'est on peut être tendanciel.
C'est ce que je dirais là.
Très bien. Myriam ?
Moi, je dirais aller vers le public, ne pas attendre qu'il vienne vers nous. Je parle toujours du public migrant. C'est vrai que récemment, on travaille à la Cité de la Santé, qui se trouve à la Cité des Sciences et de l'Industrie, avec les nouveaux arrivants, enfin, les réfugiés qui étaient à la porte de la chapelle. Et ils sont là-bas, ils sont nombreux. Il faut savoir qu'ils sont vraiment nombreux parce qu'ils se mettent à l'abri, bien sûr, du froid et tout ça. Ils passent toute la journée à se reposer. Et on a mis à peu près 2 ans pour... avoir la possibilité d'offrir le café. Parce que c'est interdit, c'est une bibliothèque publique, donc personne ne peut boire ni manger au sein de la bibliothèque. Mais avec la responsable, on demandait à chaque fois, et là, il y a à peu près 2 mois qu'on a pu avoir un endroit pour préparer le café, le thé, on nous a acheté des paravents, donc on est quand même abrité, et on rassemble ces gens. Et ces gens, jamais ils viennent, c'est pour charger leur téléphone, se mettre à l'abri. Donc, on va vers eux et on leur demande de venir avec nous. Et finalement, on a réussi, alors que le personnel là-bas sur place n'arrive pas à communiquer ni à demander à ces gens qu'est-ce que vous faites là, est-ce que vous avez... Ils sont là devant les écrans. Mais nous, on est arrivés à les rassembler. Maintenant, on est identifiés. On va là-bas, ils viennent nous voir. Bonjour, que ce soit en anglais, que ce soit dans leur langue, et ils s'assiedent. Ne serait-ce que boire ce café, ce thé avec Emma. C'est avec Emma on fait ça. La dernière fois, on a eu 16 jeunes, c'est énorme, à la Cité de la Santé, les rassemblés, tout ça. Donc, toujours aller vers le public, ne pas avoir aller vers ce public, communiquer avec ce public et faire quelque chose, construire et co-construire avec ce public.
De toute façon, on n'a pas le choix, ils sont là.
Il faut le faire avec eux.